Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent nourrit tout à la fois notre espérance, puisque nous sommes dans la perspective de Noël, et parce que c'est justement à cette espérance que nous appelle saint Paul dans l'extrait de l'Épître aux Romains que nous voulons d'entendre. Effectivement, le temps de l'Avent est le temps de la bienheureuse espérance, puisqu'encore une fois, il nous est fait la grâce d'attendre le salut et de jouir déjà sous le régime de la foi de sa douce présence. Et puis en ce dimanche, nous méditons aussi celui qui fut justement le prophète de l'espérance, celui qui clôt l'Ancien Testament, celui que notre Seigneur présente lui-même comme le plus grand des enfants des hommes, à savoir son propre cousin, qui a reçu mission de Dieu de préparer le chemin, d'annoncer la venue du Messie Sauveur et de révéler sa présence au milieu des hommes. C'est bien de Saint Jean-Baptiste dont la liturgie nous parle en ce dimanche. Toute sa vie est un exemple pour tous les chrétiens, spécialement dans les périodes difficiles où nous avons justement besoin d'un surcroît d'espérance. Le passage de l'Évangile que nous venons d'entendre se situe à un moment très précis. Le précurseur a été jeté en prison parce qu'il a fermement rappelé au roi Hérode ses devoirs. En effet, ce dernier vit maritalement avec la femme de son propre frère Philippe. Saint Jean-Baptiste, sans rien craindre, l'a rappelé ainsi à ses devoirs. Il n'est jamais permis d'aller contre la loi du Seigneur. Le Baptiste payera de sa liberté, puis de sa vie, d'avoir ainsi été fidèle à la vérité. Nous-mêmes, nous sommes souvent bien lâches lorsqu'il s'agit de rappeler ce qui est permis ou ce qui est défendu, ce qui est conforme à la vérité de l'Évangile ou ce qui fait l'œuvre du démon. Certes, il ne s'agit pas de nous ériger en censeurs impitoyables des mœurs et des coutumes de nos contemporains, ni de faire la leçon au monde entier. Nous avons aussi à nous rappeler notre propre faiblesse et notre propre complicité avec les forces du mal. En revanche, nous avons à témoigner de la vérité, nous qui, par grâce imméritée, bénéficions de la révélation qui nous a été faite en Jésus-Christ. Nous qui bénéficions aussi, sans doute depuis nos plus jeunes années, de l'enseignement de l'Église. Nous sommes responsables de la grâce qui nous a été faite et notre témoignage est la manifestation de l'amour que nous portons à notre prochain, puisque nous nous préoccupons avant tout de son salut et de sa destinée surnaturelle. Et ce qui est vrai du temps de Jésus l'est tout autant aujourd'hui. Le premier devoir de la charité est de rappeler à temps et à contre-temps la vérité à propos, par exemple, du mariage, de l'institution de la famille ou de la mission irremplaçable et inaliénable des parents dans l'éducation des enfants. Saint Jean-Baptiste, depuis sa prison, entend parler de Jésus, de ses miracles et de sa prédication. Dans un premier temps, notre Seigneur a donné l'impression de prendre exactement la succession de son cousin en prêchant et en annonçant la proximité du royaume de Dieu. Cependant, ces deux prophètes ont un style assez différent, si j'ose m'exprimer ainsi. Alors que le Baptiste appelle à la conversion en annonçant le châtiment qui vient, Jésus manifeste de façon plus explicite et évidente la bonté et la miséricorde divine, lui qui vient non pour punir d'abord, mais pour guérir et pour sauver tous les pauvres. Ainsi, les miracles qu'il réalise en guérissant les aveugles, les sourds et les estropiés, en purifiant les lépreux, en expulsant les démons, en ressuscitant les morts, sont le signe, la preuve, la marque de la présence même de Dieu qui vient au secours de son peuple, qui vient au secours du genre humain. Certes, nous connaissons suffisamment bien l'Évangile pour savoir que Jésus ne s'est point montré moins exigeant que tous les prophètes de l'Ancien Testament. Lui aussi, il appelle à la conversion. Il nous le dit même, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. Il rappelle les exigences de l'alliance passée entre Dieu et son peuple. Cependant, il montre, et c'est ainsi qu'il accomplit et qu'il dépasse ces mêmes exigences de l'Ancien Testament, parce qu'il montre que le chemin de la fidélité et de l'obéissance à la loi du Seigneur n'est pas impossible à trouver et à emprunter. Il suffit pour cela, c'est-à-dire pour accomplir la loi du Seigneur, pour se montrer fidèle aux exigences de l'Alliance, il faut et il suffit d'accueillir la présence du Christ Sauveur, puisque justement il nous fait la grâce de sa présence dans nos vies pour nous donner d'être fidèles à sa parole. La loi nouvelle ne consiste pas d'abord à obéir aux commandements, et nous avons tous fait l'expérience que nous en sommes incapables si nous sommes laissés à nos propres forces, mais bien à suivre le Christ Jésus, à être son disciple, son frère et son ami. À chaque chrétien, il est donné de faire la même expérience, de vivre la même aventure que celle que firent saint Pierre, saint Jean, saint Paul et tous les autres saints qui ont jalonné l'histoire de l'Église et de l'humanité. Mais revenons à notre page d'Évangile. Saint Jean-Baptiste est dérouté par la prédication et le style de Jésus. Il lui pose, ou plutôt il lui fait poser alors une question fondamentale, décisive. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Il se fait ainsi le porte-parole de sa génération. C'est tout un peuple en effet qui attend dans l'espérance, mais aussi dans l'impatience, la venue d'un sauveur, d'un messie, d'un libérateur. A contrario, le drame de notre époque et de notre civilisation n'est-il pas qu'il n'attend plus rien, qu'il n'espère plus rien, parce qu'il croule sous les biens matériels et que tout dans notre monde civilisé le pousse à oublier l'essentiel, c'est-à-dire les désirs les plus profonds de son cœur, sa raison même de vivre. La fête de Noël elle-même, mystère de pauvreté, triomphe de l'esprit d'enfance, joie d'accueillir dans un cœur purifié le salut et la paix qui vient d'en haut, s'est transformée en une monstrueuse kermesse où l'argent règne en roi. Pour nous, chrétiens, le temps de l'Avent nous est justement donné pour supplier le Saint-Esprit de creuser en nous le désir, l'attente, l'espérance du salut. Il suffit pour cela de nous mettre à l'école de saint Jean-Baptiste, de saint Joseph, de tous les justes de l'Ancien Testament et de la très sainte Vierge Marie. Certes, Jésus-Christ est déjà venu et nous savons qu'il reviendra dans la gloire en son second avènement pour juger les vivants et les morts. Mais il vient encore en nous chaque fois qu'il nous visite par sa présence. La grotte de Bethléem, c'est le cœur de l'homme qui se convertit et qui lutte pour rester fidèle à l'Évangile. Cet Évangile s'achève par ce bel éloge que Jésus prononce sur son cousin. Un prophète est bien mieux qu'un prophète, celui-là même que Dieu envoie comme messager pour qu'il prépare la route du Messie. Et notre Seigneur ne fait ici que citer le prophète Isaïe, le grand prophète qui nous est donné de méditer, dont les oracles nous sont donnés à méditer par la liturgie durant tout le temps de l'Avent. Mais nous aussi, comme baptisés, comme fidèles et comme disciples du Seigneur Jésus-Christ, du Sauveur du monde, nous devons être les saints Jean-Baptiste pour nos frères, c'est-à-dire pour tous ceux que la providence de Dieu met sur notre route et qu'il nous confie dans son dessein providentiel. Que Notre-Dame nous donne d'accueillir le Sauveur avec un cœur pauvre, ardent, humble et confiant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.